Bonjour Camille Magnat.
Bonjour.
Et un visage à la une de la presse britannique, c'est celui du ministre de la Défense, Gavin Williamson.
Ou pour être précis, depuis quelques heures, l'ex-ministre de la Défense britannique, Gavin Williamson, a été limogé hier par Theresa May, viré comme un malpropre. C'est en tout cas ainsi, c'est en tout cas ce qu'écrivent de concert en une, The Times, The Eye, The Daily Telegraph et j'en passe. Le Daily Express précise même, Williamson a été limogé pour trahison, rien de moins. La première ministre, après une enquête expéditive, a donné raison aux rumeurs qui, depuis le début de la semaine, voyaient en ce jeune et prometteur ministre issu du Parti conservateur la balance, celui qui avait fait fuiter cette information qui défraye la presse outre-Manche depuis maintenant une semaine. Le Financial Times nous livre le contexte. Mercredi dernier donc, les journaux anglais révélaient que le gouvernement avait passé en secret un accord avec le géant des télécoms chinois Huawei pour que ce dernier fournisse les infrastructures du futur réseau britannique de télécommunications 5G. La 5G, c'est l'internet ultra rapide qui est annoncé comme la prochaine révolution numérique. Or, vous qui écoutez régulièrement cette revue de presse, vous savez que Huawei, c'est un nom sulfureux dans l'actualité mondiale depuis des mois. Les États-Unis veulent à tout prix empêcher leurs alliés occidentaux de céder aux offres chinoises pour développer leur 5G. Ils expliquent que Pékin, via Huawei, va en profiter pour espionner toutes leurs communications. Il faut arrêter au Canada la numéro 2 du groupe et la fille de son fondateur. Bref, Huawei et la 5G sont bien plus que la prochaine icône sur votre téléphone portable. Une affaire de souveraineté économique et stratégique et un instrument aussi de marchandage dans les négociations commerciales toujours en cours entre les États-Unis et la Chine. C'est tout ça que nous résume le Financial Times pour resituer donc le limogeage de Gavin Williamson, dernière victime en date du feuilleton Huawei. Et c'est bien ainsi qu'il se présente dans le Télégraphe, victime d'une erreur judiciaire et politique, accusé à tort. Il affirme qu'il a fait l'objet d'une vendetta, lui qui, selon le portrait qu'en dresse The Guardian, était pourtant l'un des soutiens les plus fidèles de Theresa May dans la tempête du Brexit. À 42 ans, Gavin Williamson, grand lecteur de Machiavel, faisait tout pour se positionner en faiseur de roi pour l'après-Brexit au Royaume-Uni. Aujourd'hui, il jure sur la tête de ses enfants que ce n'est pas lui qui a révélé le contrat avec Huawei. Et il semble convaincre les médias britanniques, sauf peut-être The Independent, qui cite les preuves apparemment accablantes contre lui, et le Daily Mirror, qui annonce déjà que Williamson, le banni, risque la prison pour avoir trahi.
Et puis en Afrique de l'Ouest, Camille, le Bénin n'est plus vraiment le modèle de démocratie qu'il a été.
C'est en tout cas l'esprit de plusieurs articles lus ce matin dans la presse africaine, des articles qui évoquent les suites de l'élection législative qui s'est tenue dimanche. Ce scrutin, nous explique la Nouvelle Tribune de Cotonou, tous les partis d'opposition au président béninois Patrice Talon en avaient été exclus quand ils n'avaient pas décidé eux-mêmes de le boycotter justement en réaction aux violations des règles du pluralisme. Le vote a été massivement boudé par les électeurs béninois. Moins de 25% de participation. C'est le plus bas taux de l'histoire du pays, précise la radio allemande Deutsche Welle. Et encore, selon un constitutionnaliste cité par la Nouvelle Tribune, ceux qui se sont rendus aux urnes parce qu'ils y étaient obligés ont souvent voté blanc ou nul pour dire leur rejet d'une élection biaisée. Mais de tout cela, on ne parle pas dans les résultats partiels publiés par le journal Le Matinal de Cotonou. Et quand on y parle des leaders de l'opposition, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo, eh bien c'est pour dénoncer leurs irresponsables appels à l'insurrection populaire. Car il y a bien eu des affrontements hier, comme le décrit le magazine Jeune Afrique. Des policiers ont encerclé la maison de Boni Yayi, où s'étaient réunies toutes les composantes de l'opposition à Patrice Talon. L'ex-président Boni Yayi a évoqué sur les réseaux sociaux la menace d'une arrestation imminente et des centaines de ses partisans sont venus le défendre en se confrontant aux forces de l'ordre qui ont répondu par des tirs de gaz lacrymogène et de flashball. Voilà donc où en est la situation très tendue au Bénin ce matin. Enfin, pour autant que l'on puisse encore s'informer sur ce qu'il se passe là-bas, car on signale que le pays fait face à une nouvelle coupure massive d'internet, comme dimanche dernier au moment de l'élection. Un signal de plus du virage répressif opéré par Patrice Talon, bien loin de cette image de modernisateur de la démocratie ouest-africaine qu'il avait amené au pouvoir il y a 3 ans.
Et puis on termine, Camille, avec les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci et une mèche de cheveux qui fait couler beaucoup d'encre en Italie.
Oui, une mèche de cheveux qui est exposée dans l'exposition à voir à partir d'aujourd'hui dans la ville même de Vinci, en Toscane. Une mèche de cheveux qui proviendrait de la toison du génial Léonard. En tout cas, c'est la Stampa qui nous le raconte. Cette relique a été découverte dans une collection privée américaine américaine, avec cette étiquette en français dans le texte « Les cheveux de Vinci ». Les commissaires de l'exposition promettent d'en dire plus à la conférence de presse qu'ils organisent aujourd'hui avant le vernissage, mais depuis 3 jours déjà, dans la presse, ils évoquent des études d'ADN qui pourraient révolutionner notre connaissance du maître toscan. On nous promet de trouver des descendants cachés ou même de remonter l'arbre généalogique pour savoir enfin, je sais que la question vous taraude hein, depuis toujours Florian, si la mère de Leonardo était bien, comme l'affirme la légende, une jeune esclave venue de mystérieuses contrées orientales, peut-être du Moyen-Orient ou même d'Afrique du Nord. Les perspectives, vous l'avouerez, semblent infinies et passionnantes. Sauf que, eh bien, pas tant que ça, tempère clairement le site spécialisé américain Life Science. Il a interrogé des spécialistes des études ADN et de l'histoire de l'art et eux ne sont pas du tout convaincus par cette découverte. D'abord parce que rien ne prouve qu'on va trouver un ADN exploitable sur ses cheveux. Ensuite parce que si on en trouve, eh bien, on n'aura rien pour le comparer. Aucun ossement clairement attribué à De Vinci dans sa tombe d'Amboise qui a été détruite, on le rappelle, pendant la Révolution française et aucune descendance dont on soit sûr à 100%. Autant vous dire que la légende Léonard de Vinci va garder encore longtemps ses mystères. Le coup de la mèche de cheveux, lit-on dans Life Science, n'apprendra rien aux historiens. C'est du sensationnalisme commercial, mais en aucun cas de la science. 200 ans après sa mort, de Vinci continue d'être exploité à toutes les sauces, même politique. Ça c'est Euronews qui l'ajoute en présentant le sommet dit de la réconciliation franco-italien qui va se tenir tout à l'heure à Amboise entre Emmanuel Macron et le président italien Sergio Mattarella.
500 ans après sa mort, évidemment, pas 200 ans, mais 500 ans, évidemment. Oui, mais en tout cas, le mystère, c'est aussi pas mal. Merci
peut-être
beaucoup.
Peut-être que les cheveux vont nous dire qu'il est mort il y a 200 ans.
Peut-être. Merci beaucoup, Camille Magnard. Une revue de presse internationale, bien sûr, à retrouver sur le site de France Culture.